d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Et si nous commencions cette émission par cette chanson que ma génération chantait allègrement quand venait l'automne.
Colchic dans les prés, fleurissent. Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Châtaigne dans les bois se fendent sous les pas. La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Nuages dans le ciel s'étirent, nuages dans le ciel s'étirent comme une aile. La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Et ce chant dans mon cœur murmure, et ce chant dans mon cœur murmure le bonheur. La 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 la.
Vous avez reconnu Colchic dans les prés, interprété ici par Jacques Douai en 1955. Cette ritournelle fut écrite entre 1942 et 1943 par deux femmes, Jacqueline Debatte pour les paroles et Francine Coquenpeau pour la mélodie. Toutes deux étaient lilloises et toutes deux mourront à Lille, la première en 2004, la seconde en 2001. Pourquoi cette chanson ? Parce que l'on est en automne, qu'il pleut, que les feuilles tombent et que cette mélodie s'accorde bien avec le temps. Mais qui dit temps dit météo, et la météo, je n'en peux plus. La météo, encore la météo, toujours la météo, dans les médias, dans les conversations, dans tout. À croire que le monde ne pense plus qu'à la météo. Depuis que quelques petits malins ont décidé que le réchauffement climatique pouvait être rentable, on n'entend plus que ça. Dès que le soleil pointe son nez, dès que la pluie fait son apparition, dès qu'un orage gronde, la canicule estivale est elle aussi la preuve du réchauffement climatique. À propos de la canicule, nos comiques devraient se renseigner sur son étymologie et aussi sur ses occurrences. Ce terme, qui signifie en latin « petite chienne », est employé depuis l'auteur latin « Varron », c'est-à-dire depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. La définition du littré est très précise. La plus brillante des étoiles fixes, aussi nommée Sirius et étoile du chien, parce qu'elle fait partie de la constellation du grand chien. La canicule, c'est le temps durant lequel la canicule, c'est-à-dire l'étoile, se lève ou se couche avec le soleil, ce qui arrive du 24 juillet au 26 août. On ne peut être plus clair et bêtement on s'aperçoit que c'est le temps des plus grandes chaleurs, c'est-à-dire l'été, qui se prolonge souvent jusqu'en septembre. Cette étoile, Sirius ou canicule, se levait il y a 3000 ans, début juillet, et marquait en Égypte la crue du Nil. Chez les Latins, le début de la canicule était célébré les 23 et 24 juillet par une fête religieuse, Neptunalia, en l'honneur de Neptune, le dieu des océans. On construisait alors des tonnelles en bois pour se protéger des rayons du soleil et l'on sacrifiait un taureau pour adoucir les effets néfastes des grandes chaleurs. La fin de la canicule était elle aussi soumise à une fête religieuse, Vulcania, en l'honneur de Vulcain, le dieu du feu, fête qui durait 8 jours à partir du 23 août. Enfin, je voudrais rajouter que les étés caniculaires ne sont pas spécifiques au XXIe siècle et à son réchauffement climatique. En effet, au XIVe siècle, pendant 3 ans puis pendant 4 ans, la canicule frappa. Au XVIIIe siècle, le siècle n'échappa pas à 3 épisodes. 1 de 4 ans, 1 de 7 ans et 1 de 20 ans. Et quoi de mieux que d'écouter « Envie de l'eau » de Charles-Élie Couture ?
Les attend longtemps de grosses chaleurs, lourdes, lourdes comme de la crème au beurre, celles qui donnent aux Africains l'illusion d'être en Afrique, celles qui servent d'alibi à ceux qui ont besoin de boire, celles qui donnent envie de chanter sous la pluie. Quand il fait chaud, on a envie de l'eau. Presque tout aussi belle quand elle marche, oh, quand elle marche. Quand il fait chaud, on a envie de l'eau, envie de l'eau.
Revenir à la météo elle-même, si nous remontions au XIXe siècle. À cette époque, la météo pouvait être un sujet fourre-tout pour cacher sa timidité, son malaise, son ennui face aux autres, aux conversations, aux rencontres. Dans Le Rouge et le Noir, Stendhal évoque ce recours à la météo pour éviter les sujets fâcheux dans un salon sous Charles X. Les jeunes gens qui venaient rendre des devoirs, ayant peur de parler de quelque chose qui fît soupçonner une pensée ou de trahir quelque lecture prohibée, se taisaient après quelques mots bien élégants sur Rossini et le temps qu'il faisait. Charles Moncelet, dans un petit texte, ironise sur la manière dont le Parisien se sert du temps pour se mettre en valeur. Il pleut, il pleut. S'il y a un chapitre à écrire, c'est principalement sur la fange proverbiale des trottoirs parisiens. Après l'eau, l'air et le feu, la boue peut être classée, du moins sur cette partie du globe essentiellement crottée, comme un nouvel élément et prendre place en cette qualité dans les manuels de physique. Comment la boue se produit d'un instant à l'autre, c'est un phénomène, une énigme. 10 minutes d'une pluie volante suffisent pour changer en cloaque le quartier tout à l'heure le plus net et le mieux entretenu. Mais peu importe aux bourgeois de Paris. Au contraire, le bourgeois va à la pluie comme le fer à l'aimant, le papillon à la chandelle, c'est sa glu à lui. C'est juste au moment où le ciel se rembrunit qu'il songe à l'affaire importante qui l'appelle à l'autre quartier de la ville. Et point ne remettrait si belle partie au lendemain. Néanmoins, comme le bourgeois de Paris est un homme prudent et de précaution, il se munit du parapluie, ce roi des meubles. Et le voilà qui se met en route après avoir déclaré que cette pluie ne serait rien. Remarquez bien qu'il est persuadé du contraire. Sans cela, il ne serait point sorti. Mais quelle jouissance pour lui et quelle noble conquête de choisir le pavé le plus propre au milieu de ces pavés engloutis par l'averse, de disputer au plus opiniâtre le trottoir du côté des maisons, de hausser et de baisser alternativement son parapluie selon la taille des passants, tout en risquant de l'accrocher dans les enseignes ou d'éborgner ceux qui sortent des magasins. Il ferait 10 lieues de la sorte sans s'apercevoir qu'il est trempé jusqu'aux os. De temps en temps, et pour l'acquis de sa conscience, il hèle un omnibus qui l'éclabousse. Mais il a bien le soin de ne s'adresser jamais qu'au plus complet. S'il a l'occasion de passer sur la place du Carrousel, il la saisit avec empressement. Dût-il même être forcé de faire un détour pour cela ? Il peste contre le vent, il maudit les gouttières et les ruisseaux, mais ce n'est pour lui qu'un thème purement de convention. Examinez plutôt l'aimable expression de sa figure lorsque la violence de la pluie le force à se réfugier sous une porte cochère. « Ah, messieurs, quel abominable temps » s'écrie-t-il en saluant avec urbanité. Vient-il à monter chez un de ses amis ? La scène prend alors un aspect plus héroïque. C'est avec une orgueilleuse satisfaction et un sourire de conquérant qu'il s'entend adresser des reproches sur son imprudence. Comment avez-vous pu vous décider à sortir par une pluie semblable ? C'est de l'entêtement, de la folie. Vous en ferez une maladie, bien certainement. Voyez un peu comme l'eau ruisselle de votre redingote. C'est vrai, répond-il, et de mon chapeau aussi. Ainsi fait le Parisien, cet homme souverainement heureux, qui prend le temps comme Dieu le lui envoie, et qui ne se plaint autrement que pour la forme. Être à demi aquatique qui passe à travers les plus grandes tempêtes sans en presque rien sentir. Pour un Parisien qui attrapera un rhume de cerveau à s'être mouillé les pieds une demi-journée, 30 provinciaux gagneront une fluxion de poitrine. Mais le Parisien est une plante qui a souvent besoin d'être arrosée par l'eau du ciel. Maintenant, un petit intermède avec Pétula Clark à La Gadou, La Gadou.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans La Gadou, La Gadou, La Gadou, La Gadou. La Gadou, La Gadou, une, des gouttes d'eau me dégouline dans le dos. Nous pataugeons dans La Gadou, La Gadou, La Gadou, La Gadou. Ouh, La Gadou, La Gadou, vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies, nous retrouverons le gadou, La Gadou, La Gadou, La Gadou. Ouh, La Gadou, La Gadou, yeah. Il fait un temps abominable, heureusement tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas La Gadou, La Gadou, La Gadou, La Gadou. Ouh, La Gadou, La Gadou, il fallait venir jusqu'ici pour partout jouer des amoureux transis. Et partout j'ai dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue.
En 1910, ma grand-mère, comme beaucoup, connut la crue de la Seine. Et des crues de la Seine, il y en eut au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, et personne n'a fait d'obsession sur la météo. La crue de la Seine fut un événement de grande ampleur, et les articles des journaux et des revues scientifiques ne manquèrent pas. Mais aucune obsession météorologique ne naquit de cette crue. La pluie ne faisait pas peur alors, et le pays n'était pas en vigilance orange à la moindre précipitation. Cette panique de la météo au XXIe siècle finirait par transformer Chantons sous la pluie en film catastrophe.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. Singing and dancing in the rain. and singing in the rain.
Cet été, on nous a bassinés avec la canicule. Mais je voudrais juste rappeler qu'en 1914, lors de la mobilisation, l'été fut si chaud que lors des longues marches, les poilus mouraient d'insolation. Et cela dura tout le mois de septembre. Mais il ne vint à l'esprit de personne de parler de réchauffement climatique. La passion de la météo est née entre les deux guerres. Et cela déjà exaspérait certains. Ainsi, Francis de Croisset, librettiste et auteur dramatique célèbre, fit en 1930 une conférence dans laquelle il se moqua des Parisiens effarés par quelques degrés au-dessous de zéro. Pour cela, il les transporta en 1830 comme dans une machine à remonter le temps. Nous sommes donc en 1830. Nous sommes même exactement le 7 février 1830, c'est-à-dire jour pour jour, il y a 100 ans. Tout d'abord, il ne faudrait pas croire, parce que nous sommes au seuil d'une révolution, que l'on ne s'occupe à Paris que de politique. Une préoccupation domine toutes les autres. Celle du thermomètre et même du thermomètre de l'ingénieur Chevalier, le premier thermomètre centigrade français. Comme depuis 100 ans, l'on avait eu en France aussi froid qu'il gelait à 13 degrés sous zéro, pour un thermomètre qui débute, c'était vraiment un succès. Dans les vieux hôtels du faubourg, on désertait les salons glacés du premier étage pour se réfugier dans les petites pièces basses des entresols. La navigation était interrompue sur tous les fleuves et la Seine à ce point gelée que l'on projetait d'y construire en aval du pont Royal un palais de glace comme à Saint-Pétersbourg sur la Neva. Transi, les Parisiens souhaitaient le dégel et le redoutaient tout à la fois. Une première débâcle, en effet, avait emporté la plupart des ponts. L'on pressentait de nouvelles inondations et la presse, inquiète de l'incurie gouvernementale, s'écriait « À quoi pensent les pouvoirs publics ? Ils ne font donc rien ? Il y a décidément certaines choses qui ne changent pas. » Mais le froid qui faisait tant souffrir le peuple n'empêchait point les gens du monde de s'amuser charitablement. Partout, des bals de bienfaisance s'organisèrent, à l'Opéra, à la Porte Saint-Martin, à l'Odéon. Tous sont travestis. La duchesse de Berry, qui déjà a fort à faire avec le bal costumé qu'elle donne le 15 février, prend la tête de ces manifestations secourables. Tout le monde veut danser pour le peuple. Les dandys, sortant leurs traîneaux, galopent d'un costumier à l'autre, sous leur haut chapeau évasé, la taille prise dans leur pelisse et cravatée jusqu'aux yeux, ils fouettaient leur pur sang que drapait une peau de tigre. Tous avaient envoyé à leurs belles amies pour le premier de l'an une bouillotte et dans leur coupé, doublé de satin jaune et tapissé d'un tapis de la savonnerie, les élégantes passaient en mitouflées une boule d'eau chaude dans leurs manchons. Devant Tortigny, les chevaux de sel, sous leur couverture, piétinaient, attachés aux arbres du boulevard de Gand. Les fashionables, que l'on appelait aussi les gandins, les merveilleux, les favoris ou les bijoux, soupiraient en songeant que 2 mois plus tôt, ils s'alignaient sur les chaises de paille qui bordaient le café de Coblence. Le temps était si doux qu'entre la rue Taitbout et la rue du Helder, les belles dames dans leur briska, leur calèche ou leur daumon dégustaient en potinant tant de sorbets que leur équipage arrêté organisait un encombrement. Le froid déplaisait aux dandies et aux muses, que l'on n'appelait pas encore des lionnes, le premier roman de George Sand n'ayant pas encore paru. Le froid leur bleuissait le nez, leur rougissait la figure. Ils avaient beau boire du citron et même du vinaigre, passer les nuits et jeûner, toute cette jeunesse ambitieuse de pâleur, mais fouettée par la bise, finissait tout de même par avoir bonne mine. En un mot, les gandins avaient l'air bien portants. Quelle disgrâce pour des romantiques! À peine étaient-ils sortis sous la bise que le comte d'Orsay, Roger de Beauvoir, Alfred de Musset, Eugène Sue lui-même, retrouvaient un air de santé. Ah, cela avait plus de panache que l'air catastrophé de nos journalistes lorsqu'ils tentent de nous persuader qu'il n'a jamais fait si froid, qu'il faut avoir sous la main un numéro d'urgence pour sauver les plus démunis du froid, que les écoles seront fermées à cause du gel ou de la fine couche de neige, etc., etc., enfin toute leur baliverne. Voici maintenant l'incroyable Klaus Nomi interprétant Cold Song. Vous l'avez bien compris, je ne supporte plus les stupidités du genre « on n'a jamais vu ça, il n'y a plus de saison, le réchauffement climatique, les catastrophes, les falaises qui s'écroulent, la mer qui avance, les inondations, etc. etc. » Je ne supporte plus ces nunuches et nunuchettes qui viennent avec un air de circonstance nous expliquer qu'il fait froid, chaud, que l'orage gronde et que la pluie mouille. Et je ne parle pas des alertes colorées qui bêtement s'affichent sur les écrans de toute nature. Je rappelle que la météo, dans son acception moderne, fut conçue par un très sérieux astronome et mathématicien, Urbain Le Verrier, directeur de l'Observatoire de Paris. Il l'a conçue sur la demande de Napoléon III après une tempête qui provoqua la perte de 41 navires sur la mer Noire lors de la guerre de Crimée. Il est bien le fondateur de la météorologie moderne et met en place un réseau d'observatoires météorologiques destinés aux marins pour les prévenir des tempêtes. La première prévision sur 24 heures date de 1863. Avec l'aviation à partir de 1910, ces prévisions devinrent plus précises et plus indispensables. Il serait trop long de revenir sur l'histoire de la météorologie, mais il suffit de savoir que ce mot fut créé par Aristote, qui écrivit au IVe siècle avant Jésus-Christ les météorologiques, études des corps et des phénomènes célestes qui se produisent dans une zone moyenne entre la Lune et la Terre. Et que la météo, telle qu'on l'entend aujourd'hui, se résumait, à partir du XVIe siècle, et malgré Galilée et son thermoscope, Torricelli et son baromètre, ou Hooke et son anémomètre et autres inventions, à une série de dictons paysans qui n'étaient parfois pas sans intérêt. Ainsi, la météorologie était une science. Mais Evelyne Delia, présentatrice depuis plus de 30 ans de la météo, a su nous faire oublier cette évidence. Météorologie, science qui étudie les phénomènes affectant la partie la plus basse de l'atmosphère terrestre ou troposphère et branche de la physique qui traite des météores et des variations de l'atmosphère, selon le dictionnaire Larousse. La météo est un moyen de plus pour nous faire peur. Il est tellement plus facile de régner sur des gens qui ont peur. Il faut nous faire peur à n'importe quel prix. Covid, attentats, terrorisme, Poutine, alerte orange ou rouge, catastrophe climatique et j'en passe. Une prof d'université s'en sert même de cette météo pour écourter ses cours. Elle appelle ça la météo du jour. Les élèves doivent devant tous étaler la météo de leur morale, de leur vie. C'est pour les aider, paraît-il, pauvre monde. Et si nous finissions avec une chanson de Carlos, Seigneur Météo ?
Et voilà l'averse qui tombe, il n'y a plus de saison. On a fait la bombe. Albert Simon.
Aïe aïe, Seigneur Carlos.
Ma grenouille est malade.
Aïe aïe, pauvre Tenos.
Et elle n'a plus 20 ans.
Aïe aïe, qui est catastrophe.
Le soleil est en rade.
Elle avait annoncé du beau temps. Seigneur Météo, quando dit-il fait bon. Seigneur Météo,
l'été on s'enrhume facile, et depuis les restrictions, on dort en costume de ville. Jean Breton
de Venise à Vesoul.
Oublions le chauffage
emporté par le fioul.
Ne formons qu'un seul corps. Seigneur Météo, quando dit qu'il fait beau. Seigneur Météo, arregla que frigo. Aïe, aïe, Seigneur Météo, quando mi transistor esperanza calor y la tos. Que dolor!
Madame est là, s'il vous plaît.
Attends la madame, la salita, con el señor Carlos, a bailar el cha-cha-cha. Que cha-cha-cha es muy sabroso, señor.
Señor Meteo, cuando dijiste vos, Señor Meteo, habla que frigo. Ay, ay, Señor Meteo, cuando mi transistor esperanza calor y la tor. Señor Meteo, cuando dijiste vos, Señor Meteo, habla que frigo. Ay, ay, Señor Meteo, cuando
Eh bien, sur cette note de bonne humeur, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM. Thank you.